Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, les résidents du quartier de Beechwood retrouvent leur très couru Beach Fest d'Ottawa.
Les gens ne sont pas tous riches et quand même ils ne sont pas tous pauvres. Et ici, il y a un mélange et c'est le mélange que j'aime.
Après avoir passé 2 ans à naviguer en eau trouble, le théâtre du Cercle de Molière retrouve ses planches et des artistes de tous horizons.
Étant donné que le théâtre est vraiment axé sur un vouloir des multiples voix, des voix qu'on n'entend pas souvent, des voix qui nous proviennent d'un peu partout, ces gens-là en ce moment sont hyper occupés. Alors, il y a comme une effervescence des artistes de la diversité là en ce moment.
Dans les Maritimes, on pleure la disparition de Margaret Sillyboy Poulette, de la Première Nation Mi'kmaq de Wekoba au Cap-Breton. Elle a milité toute sa vie pour sensibiliser les non-autochtones aux réalités des Premières Nations.
On peut lire sur ça, et on peut peut-être en connaître, mais quand on connaît une personne, puis on peut écouter son expérience et son trajet, ça fait réaliser qu'on connaît peut-être pas, et on se doit aussi, comme citoyen et comme Canadien, Acadien, de connaître l'histoire de ce qui s'est passé dans notre passé pour nous assurer que ça ne se répète pas.
Et dans l'œil de notre périscope, on ajuste notre rétroviseur, oui, c'est moderne, et on prend des nouvelles de nos journalistes en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Bienvenue à Point de vue. On célébrait à Ottawa, après une pause de 2 ans, la fête annuelle du Beach Fest. Le Beach Fest, qui est en fait une immense fête des voisins. L'événement se déroule tout au long de l'avenue Beechwood, du quartier qui porte le même nom. Au programme, des musiciens, des spectacles, des artistes, de l'artisanat, de la nourriture. Tout était en place le 10 septembre dernier pour passer un beau moment entre voisins. Notre journaliste Marie Hillès était sur place et nous a ramené ce qui suit.
Des hamburgers, des boissons, de la musique, de l'art et de la bonne humeur. Le Beach Fest est l'une des fêtes annuelles importantes de la communauté. Du maïs frais, que moi-même j'adore, offert par Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier.
C'est le fun. Comme vous voyez, la température aujourd'hui est idéale pour ce genre de festival. Ça rassemble vraiment la communauté. Hein? On a une belle communauté. L'avenue Beechwood nous rassemble, puis c'est beau de faire un festival. On voit beaucoup de familles, beaucoup de nouvelles familles qui sont arrivées dans le quartier aussi ces dernières années.
Qu'est-ce qui va vous manquer le plus?
Ah, ben moi, j'aime les gens. Toute la proximité aux résidents. Essayer d'aider, essayer de faire avancer les dossiers. Comme vous le savez, on a des dossiers qui sont complexes, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec les résidents. C'est ce qui va me manquer le plus. J'aime les gens, puis c'est une pause, mais je vais trouver d'autres façons de me garder impliqué. Justement, à ce genre de festival-là, je pourrais venir en famille.
Lynn habite dans le quartier depuis 3 ans. Elle porte une épingle sur son chapeau. J'aime Vanier. Avec son beau sourire, elle souligne la belle ambiance, mais aussi pourquoi l'avenue Beechwood est particulière.
Entre les deux communautés, Vanier avec le caractère et New Edinburgh qui est un peu différent.
Les gens ne sont pas tous riches et quand même ils ne sont pas tous pauvres. Et ici, il y a un mélange et c'est le mélange que j'aime.
Nicolas est venu en famille. Selon lui, c'est une possibilité de faire la fête et d'être ensemble avant l'hiver.
C'est, je pense, la 3e, 4e fois qu'on vient, pas pendant la COVID, mais il y a autant de monde que dans le passé avant la COVID. C'est le fun.
Vous habitez dans le quartier. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier?
Oui, nous, on vit dans le quartier. Qu'est-ce qu'on préfère le plus? C'est l'aspect francophone et l'aspect communautaire avec nos voisins. Je suis franco-ontarien de naissance, puis pour moi, c'est important parce que je veux que mon enfant il grandisse en français le plus possible. Donc, quand tu veux ça en Ontario, tu choisis une communauté francophone, comme Vanier.
Joanne et son mari habitent depuis quelques années dans le quartier, mais c'est la première fois qu'ils participent à cette fête de rue.
Je pense que c'est juste le coming together of everybody, of all ages. C'est nice. Je pense que c'est le overall feel of everything, the entertainment and.
Que tout le monde soit ensemble, de tout âge. C'est sympa, les festivités, les boutiques sont ici, la banque alimentaire est là. Beaucoup de familles se retrouvent, c'est formidable.
Tu peux écrire avec ça. Tu te mets
Louis Mercier est un artisan qui vient de la ville de Maniwaki. Il chante, il danse, mais au Beach Fest, il prépare des bracelets très spécial.
Je travaille les corses de bouleau. On fait des petits cœurs, on fait des petits bracelets. Puis on fait des petits bracelets en cuir avec du cuir recyclé.
Et pourquoi vous aimez ce festival qui est ici aujourd'hui?
Ah, parce que je trouve que c'est familial, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, puis j'aime ça. Et les gens sont là pour que je peux mettre un petit peu de bonheur dans la vie des gens, c'est ça que je fais.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et un autre événement reprend du service, cette fois à Winnipeg, au Manitoba. Après avoir passé près de 2 ans à naviguer en eau trouble, l'équipe du Théâtre Cercle de Molière lance sa programmation annuelle. Le Théâtre du Cercle de Molière s'est retroussé les manches et, avec l'aide d'une foule de collaborateurs provinciaux, canadiens et étrangers, a pu programmer sa saison 2022-2023. Le Théâtre Cercle de Molière, qui a profité de cette pause pandémique pour se redéfinir et offrir une place encore plus importante aux artistes issus de la diversité. Geneviève Pelletier, directrice artistique du Théâtre Cercle de Molière, nous parle de la programmation 2022-2023. Elle est au micro de notre journaliste Aurélie Forsen au Manitoba.
Ce qui est le fun, c'est que cette année, on a vraiment été plongé dans les collaborations qu'on avait élaborées pendant la pandémie. Et donc, ça a été vraiment quelque chose. Alors, on a mis en place quelque chose avec des artistes. Donc, c'est une série de collaborations, de coproductions, de coprésentations, de toutes sortes de choses qui fait en sorte que l'effervescence de la communauté artistique francophone du Manitoba est vraiment en éveil et est vraiment très, très présente. Donc, on démarre avec, au mois d'octobre, bien sûr, avec Stéphanie Morin-Robert, qui présente son spectacle Blind, qui est un spectacle qu'elle a mis en scène elle-même. C'est un solo qu'elle a voyagé le monde avec et ça va être une première mondiale en français de son spectacle. Alors ça promet d'être juste extraordinaire. Ensuite, on va avec 1, 2, 3. Donc on a, c'est un spectacle pan-canadien avec une multitude de différents partenaires. Et à l'intérieur de ce spectacle, il y a 40 comédiens et comédiennes qui jouent dans ce spectacle-là. C'est vraiment un très, très grand déploiement. C'est mené par Manny Solimaniou, qui est le nouveau directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts. Et à l'intérieur de ce spectacle-là, nous avons nos chers Éric Plamondon, Anne-Laure Coupe et Ghislain Kibaga, ainsi que Marie-Ève Fontaine, qui font partie de la distribution des 40 personnes qui vont voyager à travers le pays. Donc ça, c'est juste extraordinaire à ne pas manquer au mois de novembre. Au mois de janvier, on vient avec Le Soulier, qui est avec le Théâtre de la 16e de Vancouver. C'est une comédie loufoque, un peu noire, mais super drôle, physique, vraiment très, très bien, d'un auteur québécois qui s'appelle David Paquette, mais distribution entièrement de Vancouver. Et à la fin, on termine, bien sûr, la grande saison avec Empreinte, qui est un spectacle multi-compagnie qu'on va aller créer en Guinée, à Conakry en Guinée, au mois de novembre, et qu'on va faire venir ici retravailler, donc avec des gens de la Guinée, des gens de la France et des gens du Manitoba. Donc ça promet d'être super intéressant aussi. Et c'est Daniel Péloquin-Hoffner qui est le comédien qui va partir d'ici, de chez nous, qui va rencontrer Aminata Touré, qui est une comédienne extraordinaire de Conakry, ainsi que Henri Thomas de la France. Et bien sûr, on a notre secteur jeunesse, donc le merveilleux spectacle de Marie-Ève Fontaine, qui est une artiste d'ici, qui va jouer avec Gérald Laroche, qui est un artiste métisse, musicien juste extraordinaire, ainsi que Nathalie Labossière. Ça, c'est avec Cet été qui chantait. Et on termine avec Gazagine, qui est un spectacle qui veut émuler une forêt extérieure, intérieure, avec artistes musiciens, une autre artiste autochtone et une artiste polonaise. Donc voilà, c'est un peu la saison de cette année. Ben, multiple.
Ben voilà une programmation qui m'a l'air bien remplie.
Oui, très.
D'ailleurs, on peut voir dans notre communauté qu'il y a un grand retour, un grand boom culturel. Comme par exemple, si je cite Andréna Turenne, qui était la directrice de l'Union Métis Saint-Joseph, mais qui, une fois que la vague a commencé à s'estomper, est retournée à son emploi d'artiste. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont revenus sur la scène.
Étant donné que le théâtre est vraiment axé sur une vouloir des multiples voix, des voix qu'on n'entend pas souvent, des voix qui nous proviennent d'un peu partout, ces gens-là, en ce moment, sont hyper occupés. Alors, il y a comme une effervescence des artistes de la diversité, là, en ce moment, qui est juste extraordinaire. Comme c'est quasi impossible. On a tenté, d'avoir une troupe autochtone à venir au mois de janvier et c'était, d'une difficulté. Donc là, il faut qu'on remette ça en 2023. C'est juste pour dire qu'il y a vraiment une effervescence à cet égard par rapport aux artistes de la diversité. Et moi, je trouve ça juste, ça me réjouit, mais de façon monumentale. Parce que c'est exactement où nous, ça fait des années qu'on promulgue, qu'on veut aller. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis très contente de ça. Donc oui, quelqu'un comme Andrina, ça a sens que quelqu'un comme Daniel Roy qui va travailler, quelqu'un comme Marie-Josée Dandonneau, quelqu'un comme même Ghislain Kibaga qui est sur la scène de l'humour et sur les planches en ce moment. C'est juste, moi ça, en tout cas, c'est le temps d'être artiste et c'est le temps d'être artiste. Si vous avez une voix, si vous avez quelque chose à dire qui est autre que le mainstream, je vous encourage énormément puis de venir nous voir parce que c'est ça qui peuple vraiment le théâtre et la scène artistique en ce moment.
C'était Geneviève Pelletier au micro d'Aurélie Nana Forsen au Manitoba. On se dirige maintenant vers les Maritimes dans l'est du pays. On y fait une pause pour souligner le départ d'une grande dame, Margaret Sillyboy Poulette, issue de la Première Nation Mi'kmaq de Wekoba au Cap-Breton, est décédée le 10 septembre dernier à l'âge de 79 ans. Madame Poulette a longtemps milité pour sensibiliser les non-autochtones aux réalités des Premières Nations. Margaret Poulette est l'une de celles qui a fréquenté de force l'ancien pensionnat autochtone de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Elle y est arrivée dès l'âge de 4 ans, ce pensionnat qui, comme d'autres pensionnats autochtones au pays, s'était donné pour triste mission d'assimiler les enfants autochtones, de détruire leur culture, leur identité et leur histoire, et souvent au détriment de leur santé physique. Margaret Poulette, qui a d'ailleurs témoigné de l'expérience qu'elle a vécue au pensionnat de Shubenacadie lors de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, et rapporté les conditions de vie pitoyables qui y régnaient. Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre à Chéticamp, connaissait bien Mme Poulette. Elle fait son devoir de mémoire en compagnie de notre journaliste Daniel Aucoin.
Lisette, on a appris en fin de semaine le décès de Margaret Poulette de Wekoba au Cap-Breton, une communauté autochtone pas loin de Chéticamp. C'est quand, toi, la première fois que tu as rencontré cette dame-là, Margaret Poulette?
Je pense que ça fait depuis 2016. La Société Saint-Pierre participait avec les communautés Mi'kmaq et Gaelic dans la création d'un groupe appelé MAGIC, qui était tout simplement un rassemblement d'activités 3 ou 4 fois par an entre les Mi'kmaq, Acadiens et les Gaels pour mieux se connaître. Alors, c'était pas rien de formel, mais c'était des activités où on se déplaçait dans les communautés pour apprendre et mieux se connaître entre cultures. Et surtout à nos activités qu'on avait à Wekoba, Margaret Poulette était toujours une des participantes à nos activités. Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer lors de nos petites activités.
Suite à ces rencontres-là, comment toi, tu décrirais le mieux cette femme-là, Margaret Poulette?
Super gentille, dans sa simplicité. Elle était très humble. Elle était une femme qui observait à nos activités. C'était pas elle qui prenait le plus de place, mais elle écoutait. Puis, une femme très, très intelligente. Puis si on avait la chance de s'asseoir avec elle puis jaser, elle avait beaucoup à nous raconter et nous faire apprendre.
On sait que Margaret Poulette, en tant que personne touchée directement par les séquelles des pensionnats indiens, des pensionnats autochtones, elle a eu la chance de communiquer son récit et ses expériences à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Est-ce que pendant vos rencontres, vos jasettes, est-ce qu'elle a jamais communiqué ces expériences-là avec les membres de votre comité?
Oui, je pense à une fois en particulier, quand on nous parlait de les écoles résidentielles, puis à l'âge de 4 ans, en raison du décès de sa mère, son père ne pouvait pas prendre garde à elle et son frère et sa sœur, et ils ont été amenés à Shubenacadie, à une école. Puis elle parle de son expérience. Puis il y a même eu un projet avec des jeunes à l'école à Wekoba qui ont enregistré son récit. Puis c'est un petit vidéo de 6 minutes qu'on peut trouver en ligne. Puis elle parle de son expérience qu'à l'âge de 4 ans, sa tâche était de le nettoyage. Puis elle manquait beaucoup sa poupée. Alors, elle avait fait sa propre petite poupée avec des règles, ce qui est le bon mot pour ça, mais avec des petits morceaux, des petites cannes. Puis c'était sa petite poupée pour elle, pour la consoler dans son ennui pour sa famille.
C'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de Margaret Poulette?
Dans nos activités, comme que j'ai dit, c'était aussi les cultures acadiennes et gaéliques qu'on voulait mieux connaître. Fait que lors de notre fête de la mi-carême, quelques années passées, avant la pandémie, je pense, on avait invité les gens de venir fêter pour une activité spéciale ici au Trois-Pignons pendant la semaine de la mi-carême. Alors, les gens de Wekoba ont arrivé, masqués, costumés, ont frappé à notre porte et ils ont eu la chance de connaître un peu notre tradition de la mi-carême. Puis je pense qu'elle, dans son après-midi, elle avait beaucoup, beaucoup apprécié parce qu'il y a il y a un lien avec les Acadiens aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'est le lien direct, mais il y a un peu de parenté avec sa fille Rosie. Acadien, il y a du sang acadien. Alors, pour eux, de venir fêter la mi-carême, c'était plaisant pour eux, puis c'était une façon de mieux nous connaître. Puis, il avait eu beaucoup de plaisir cet après-midi-là. J'en garde des bons souvenirs.
On ne connaît pas ou on n'en sait pas assez au sujet du peuple autochtone, même si c'est pas loin, c'est juste une heure de Chétiquan. Alors, on a beaucoup à apprendre au sujet des Autochtones et je pense que cette dame-là, elle nous a permis d'en savoir un peu.
Absolument. On peut lire sur ça et on peut peut-être en connaître, mais quand on connaît une personne puis on peut écouter son expérience et son trajet, ça fait réaliser qu'on ne connaît peut-être pas, et on se doit aussi, comme citoyen et comme Canadien, Acadien, de connaître l'histoire de ce qui s'est passé dans notre passé pour nous assurer que ça ne se répète pas.
Alors, Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre, merci beaucoup de nous avoir communiqué un peu au sujet de Margaret Poulette, femme autochtone, décédé à Wekoba, au Cap-Breton, en fin de semaine.
Mon plaisir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Vous savez que le pays est vaste et des fois on doit sortir notre périscope, voir ce qui se passe tout autour. Premier arrêt en Alberta où on nous apprend que le musicien franco-albertain Ronald Tremblay planche sur une anthologie de la culture franco-albertaine. Une équipe d'une douzaine de personnes lui prête main forte. L'anthologie devrait être d'ailleurs publiée en version web d'ici quelques mois. Notre journaliste Vincent Lavoie est en compagnie de Ronald Tremblay.
On est maintenant une douzaine de rédacteurs à travailler sur cet ouvrage-là qui, dans le fond, raconte un peu l'histoire des arts et de la culture en Alberta. Cette fois-ci, c'est vraiment la culture et les arts du côté canadien-français, franco-albertain. Et là-dedans, il y a de tout. Hein. C'est incroyable parce qu'on a aussi, plus récemment, là, on a des artistes de la chanson, on a des auteurs qui sont ce qu'on appelle encore des nouveaux arrivants. Mais vraiment, on va être vraiment surpris de l'inclusion qu'on a, c'est des francophones de l'Alberta, de tout azimut, comme on dit. Moi, je me suis aperçu au fil des ans, c'est sûr qu'il fallait développer certaines choses, mais on n'a pas à envier personne d'autre, que ce soit dans l'Ouest ou même au pays. On a beaucoup, beaucoup d'éléments ici, là, qui, pas rien que parce que c'est des gens qu'on aime bien, mais des gens qui sont surprenants.
Le voilier Comaris revient d'une expédition bleue de 17 jours. L'équipage, composé de 16 personnes, a parcouru le golfe du Saint-Laurent et ses rivages dans le cadre d'une mission de recherche scientifique et de création artistique. L'Écomaris a visité les côtes de Sept-Îles, des Îles-de-la-Madeleine, de l'île d'Anticosti, de Tête-à-la-Baleine et de Terre-Neuve. L'Écomaris qui avait pour mission d'étudier et de documenter la pollution plastique et de témoigner des changements climatiques. Pénélope Clermont a pu monter à bord de l'Écomaris lors de sa halte à Tête-à-la-Baleine. Elle en parle avec Anne-Marie Asselin.
Ça faisait 5 ans qu'on y travaillait avec l'Organisation Bleue sur un projet d'expédition pour le recensement du plastique. Il y a eu une pandémie, comme
oui,
vous savez.
Oui.
Ce qui a retardé un peu tous les projets. Puis finalement, c'est en décembre qu'on a déposé à temps navire avec le Réseau Québec Maritime, où on a proposé un format beaucoup plus simplifié, là, mais c'était pas simple du tout. C'est quand même 4 équipes de recherche là, qui sont en parallèle avec la navigation, donc logistique complètement éclatée. Là, à planifier des itinéraires, gérer des assurances. On a de l'équipement audiovisuel pour produire 4 films là, à bord. Fait qu'on est capable de streamer en live. Genre hier, on a été sur Facebook pendant qu'on accostait à Wellington Harbor. Demain matin, on annonce tantôt qu'on va aussi être en live pour l'arrivée à Terre-Neuve. Fait que sur ces petits moments-là clés, on est capable de se connecter directement avec le public. Puis les gens voient toutes les manœuvres de bateau, par exemple. Si on va se promener en hike, mettons, on peut les amener avec nous directement. Mm-hmm. En plus de filmer tout ce qui se passe là, au courant de l'expédition pour la production d'un long métrage, puis de capsules complémentaires également.
Un projet minier inquiète la population de la ville minière québécoise de Fermont, si bien que la minière Mid-Atlantic Minerals, qui souhaite exploiter un gisement de quartz au lac Topper, devra s'expliquer publiquement le 22 septembre prochain. Le conseil municipal de la ville de Fermont indique que le site du projet proposé se trouve à l'intérieur de l'aire de protection et de l'unique source d'eau potable qui alimente le secteur, soit le bassin versant du lac Perchard. Élisabeth Séguin a rencontré le président de la minière, Steve Daigle.
Ce n'est pas des grosses opérations. Là. On parle de peut-être juste un loader, une pelle mécanique, un concasseur, puis un tamiseur pour extraire le quartz puis l'amener à mon usine à Québec. On est une petite compagnie. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir des grosses opérations là-bas avec des camions qui font des allers-retours puis beaucoup de tonnage ou quoi que ce soit, comme on est habitué de voir à Fermont. Là. C'est une plus petite opération. Je pense que l'idée, ce serait de s'asseoir ensemble, les citoyens et Mid-Atlantique, pour discuter de bon, ben, comment on peut faire pour cohabiter ensemble. C'est plus ça l'idée, je pense.
On commémorait le 15 septembre dernier à Barrie, en Ontario, la bataille de l'Angleterre. Plusieurs Canadiens ont, au cours de cette bataille, prêté main forte aux troupes anglaises du 17 juillet au 31 octobre 1940. C'est là, d'ailleurs, que l'aviation royale canadienne a reçu son baptême de feu. La bataille de l'Angleterre est commémorée chaque année ici au Canada en souvenir du dur coup que la Grande-Bretagne et ses alliés ont infligé à la Luftwaffe allemande. Cette victoire aurait même fait reculer Adolf Hitler, qui couvait le projet d'envahir l'Angleterre. Marc Lalonde est en compagnie d'un retraité de l'aviation royale canadienne, Normand Marion.
Hitler, qui était frustré de s'être fait bombarder, que des villes allemandes en avaient été bombardées, alors lui a décidé de tourner l'offensive allemande aérienne, les bombardements vers les villes plutôt que les positions stratégiques qui auraient dû continuer d'attaquer. Alors, on commémore la bataille d'Angleterre normalement, généralement, le dimanche qui tombe entre le 15 et le 20 septembre. Pourquoi ces dates-là? C'est parce que ça représente le 15 septembre 1940, le dimanche 15 septembre 1940, alors que ce jour-là, ça a été vraiment le tournant de la bataille d'Angleterre, alors que ce jour-là, l'aviation de chasse, le Fighter Command de l'aviation britannique et alliée ont frappé avec un tel acharnement la Luftwaffe, les forces de bombardiers allemands qui attaquaient la Grande-Bretagne, qu'ils ont perdu. Les Allemands ont perdu tellement d'avions et de personnel que Hitler y en avait assez. Il a décidé d'abandonner son projet d'invasion de la Grande-Bretagne et il s'est tourné plutôt vers l'URSS. Alors, ce dimanche-là, le dimanche de la bataille d'Angleterre, on honore la mémoire de ceux qui ont servi durant la bataille.
Et en terminant, on soulignait le 11 septembre dernier la 20e journée mondiale de la prévention du suicide. Et à Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, plus de 100 personnes ont déposé 200 lanternes sur les lacs de la halte routière de Kedgwick pour souligner cette journée. Maxime Gauthier a ouvert son micro à une personne qui revient de loin et qui tenait à rester anonyme.
La raison que j'ai voulu participer à la journée de prévention du suicide, c'est parce que moi-même, j'ai fait des tentatives de suicide à plusieurs reprises. J'ai été suivie de proche, j'ai été hospitalisée 3 fois en psychiatrie. Puis ça fait déjà un bon 2 ans que je peux dire que ça va bien. Parce que là, je suis médicamentée, je suis suivie, je suis plus ouverte, puis j'ai beaucoup plus d'outils pour pouvoir me contrôler moi-même, pour plus penser, pour me changer d'idée. Puis j'apprends à aimer la vie chaque jour. Juste ça. C'est merveilleux. Puis c'est pour ça que je voulais participer, parce que je trouve ça important qu'on en parle. Parce que souvent, comment je dirais ça, c'est tabou. C'est un sujet qui est beaucoup tabou. Le monde ne veut pas en parler par peur d'être jugé. Mais au final, tout le monde y pense. Tout le monde passe par là à un moment donné dans sa vie. Fait que je trouve que c'est bon qu'on en parle pour savoir que tu n'as pas besoin d'être jugé puis d'avoir peur d'en parler quand ça va pas bien.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Voilà, c'est tout pour nous. On remercie nos journalistes Marie-Hélès, Daniel Aucoin, Elisabeth Séguin, Maxime Gauthier, Marc Lalonde, Pénélope Clermont, Aurélie Forsen et Vincent Lavoie. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. L'émission Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenus compagnie. À la semaine prochaine.